marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il avait des actions dans les compagnies d'acier et d'aluminium à travers le monde. Il les a toutes revendues ces derniers jours. Bonjour Jean Lebrun.
Tiens, c'est peut-être qu'il y a une atmosphère de nationalisme.
De protectionnisme, quelque chose
économique, de standard. Oui. Ça va être notre thème, enfin vu des États-Unis, évidemment.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Protectionnisme et nationalisme économique aux États-Unis.
Pennsylvania is the state that gave us American independence, American freedom, and what else? American steel. American steel. Steel is back. Steel is back and aluminum is back.
8 mars, Trump relevait les tarifs de l'acier et de l'aluminium. Alors ce débat sur les choix commerciaux, il est aussi vieux que les États-Unis. En 1784, Jefferson disait à Washington « Le monde entier devient commercial, nous devons y aspirer à la meilleure part possible ». Un peu plus tard, au début du 19e siècle, Ricardo élabore les premières leçons du libre-échangisme, mais c'est au sein de la nation alors dominante, la Grande-Bretagne. Le libre-échangisme défend l'idée que chaque pays oriente sa production vers le secteur où il offre un avantage comparatif. La production mondiale s'en trouve augmentée, le choix du consommateur diversifié. Mais les États-Unis à cette époque sont encore une nation émergente. C'est à l'abri du protectionnisme qu'au long du 19e, ils choisissent de développer leur marché intérieur. À la fin du siècle, leur espace propre devient parfois trop exigu pour certains de leurs produits qui sont désormais concurrentiels. Ils peuvent songer à ouvrir la porte. Comme quoi, le protectionnisme est éducateur. C'est ce que dit la science économique. Mais que dit la science politique ? Que le pouvoir se conquiert en fonction d'une sociologie électorale. Quand Trump hausse les tarifs sur l'acier et l'aluminium, il convoque à la Maison-Blanche pour présenter la mesure. Des cols bleus venus des États traversés par la concurrence asiatique et qui ont voté pour lui. La protection protège les ventes des produits, elle est aussi un produit qu'on vend politiquement. La science économique et la science politique considèrent la protection au regard de l'intérêt de la collectivité ou d'une catégorie sociale. Mais nous allons passer à un autre registre, géopolitique, et l'entendre comme une stratégie nationale, une politique de puissance. Quand Trump dit « Steel is back », chacun comprend « America is back ». L'expérience montre que s'il est une frontière qui se franchit aisément, c'est celle très poreuse qui sépare le protectionnisme et le nationalisme.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Christian Arbulo, bonjour.
Bonjour.
Alors, auteur de différents livres sur l'art de la guerre économique, sur le nationalisme économique américain, VA Édition. Mais je vais vous présenter surtout comme le fondateur ou le cofondateur de l'école de guerre économique où vous donniez encore un cours tout à l'heure du côté des Invalides. Ce qui vous intéresse, vous, c'est le rapport de force.
Oui, c'est de bien comprendre que l'histoire de l'humanité, elle est effectivement dans le développement, dans toute l'innovation, dans l'invention que l'homme et la femme ont.
C'est bien,
ont
je
généré.
Dis que l'homme et la femme, bravo.
Je fais attention. Mais il y a l'autre versant, et l'autre versant, c'est l'esclavage, c'est les empires, c'est pas d'empire sans esclavage, sans force de travail, c'est les colonisations diverses et variées, c'est une violence exprimée qui court tout au long de l'histoire de l'humanité à travers le problème de la survie. Qui, si on remonte à 30 000 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est les 9 dixièmes de l'histoire de l'humanité, et ça ne se passe pas simplement que par la cueillette ou l'élevage.
Et la bienveillance.
Et la bienveillance, et là, ça se manifeste autrement.
Alors, on va prendre le cas des États-Unis tout au long de cette émission, commencée au 19e siècle. C'est une nation isolationniste, d'autant qu'elle a quand même la possibilité, grâce au rapport de force et à la conquête, d'ouvrir vers l'Ouest un marché intérieur qui va lui suffire longtemps.
Oui, mais ça va pas se passer simplement. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'elle rachète la Louisiane, et elle va le faire assez astucieusement en profitant d'un facteur qu'on oublie, mais c'est que les Français, en fait, ne s'exilaient pas facilement. Et un des problèmes posés à la colonisation française sur le continent nord-américain, c'est qu'il n'y avait pas assez de Français pour peupler les colonies françaises, notamment le Québec, mais pas simplement. Et déjà, le rachat, c'était, disons, un acte entre guillemets pacifique, celui-là. Ce qu'il était beaucoup moins, en revanche, c'est que entre la côte Est et la côte Pacifique, il y avait les peuples indiens. Et là, la conquête de l'Ouest, c'est pas simplement des films hollywoodiens, c'est la manière assez dure, pour ne pas dire plus, qui consiste à obliger les peuples indiens à se soumettre à la volonté des jeunes États-Unis d'Amérique qui ont des idées très très précises dans leur volonté d'atteindre la côte ouest et surtout développer économiquement cet immense continent.
Alors comme vous aimez le dessous des cartes, continuons à rebattre autrement les cartes. Alors ils se disent indépendants, mais ils sont dépendants de théories européennes. Le protectionnisme qu'ils appliquent, ça vient tout droit.
Oui,
du vieux mercantilisme d'ancien régime et du protectionnisme moderne.
En fait, on a une forme, je vais reprendre le titre de votre émission, de marge de l'histoire pour comprendre que les recettes ont été systématiquement reprises dans ce sens-là. C'est-à-dire que les nouvelles nations ont compris que les anciennes nations, les anciens empires, pour consolider leur pouvoir, ont toujours cherché à protéger les avantages acquis. Et les anciens empires ou les puissances dominantes, elles ne s'ouvraient qu'à partir du moment où elles savaient qu'elles allaient dominer l'autre. Donc, dès le moment où on a les capacités de dominer, de contrôler les mers, militairement et commercialement, là, on peut se lancer à la conquête du monde et affirmer avec une grande facilité qu'il faut ouvrir les marchés, baisser les barrières douanières, etc.
Ce qui va commencer à se faire pour les États-Unis, fin 19e, début 20e siècle, la doctrine de la porte ouverte du président Wilson, des opportunités donc sont exploitées. Il y a le mot opportunité qui vient à l'esprit, puis au bout d'un moment de la longue expérience américaine, il y a le mot responsabilité. Quand, après la crise de 29 en 1930, on élève des tarifs douaniers de nouveau très élevés, représailles, réactions en chaîne en Europe, et les États-Unis en 1940, 42, 43, 44 sont obligés de se dire qu'ils ont porté une responsabilité dans la grande crise et la guerre.
Oui, mais ils vont écrire une belle histoire autour de ça. C'est-à-dire que, alors là on est à la radio, mais je me souviens d'un document de propagande américain durant la guerre, qui par rapport au Japon, qui soulignait le côté guerrier, agressif de l'Empire du Soleil Levant, mais qui soulignait aussi déjà à ce moment-là la menace économique qu'il représentait. On est durant la Seconde Guerre mondiale.
Et le narratif au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous parlez de belle histoire, je reprends vos termes, Christian Arbulot, il va pouvoir se déployer grâce à cette idée de génie qu'est le plan Marshall, que voici ici présenté par une notabilité française, hélas anonyme, mais dont le langage est extrêmement clair. Nous sommes en 47.
Un grand pays est intervenu, l'Amérique. Et c'était d'ailleurs le seul qui pouvait le faire, car il n'avait pas subi de destruction sur son propre sol. Il est intervenu parce que ses dirigeants ont estimé avec sagesse et aussi avec générosité, qu'aucune nation de notre monde moderne, dont le progrès a aboli les distances, ne pouvait vivre dans la paix et la prospérité si toutes les autres étaient en proie à la pauvreté et à l'insécurité. C'est ainsi qu'après l'aide intérimaire a été promulguée il y a exactement 2 ans, le plan de relèvement européen dont le but unique était de recréer dans les pays d'Europe ruinés et menacés par le désordre la prospérité économique qui est la condition indispensable de la paix sociale et aussi de la paix internationale.
Le libre-échange que défendent maintenant les États-Unis avec l'intégration de l'Europe d'abord, puis de pays qui ont été colonisés et perdus par l'Europe, c'est un mode d'aimantation pour les États-Unis.
Oui, mais je reviens sur la petite bande-son que vous venez de diffuser. Dire que le plan Marshall, son unique but, c'était créer la prospérité en Europe, ça relève pratiquement de la désinformation maintenant, avec le recul du temps. Parce qu'on sait très bien que les États-Unis, à ce moment-là, étaient les maîtres du monde, enfin en tout cas du monde occidental, et dans le plan Marshall, il y avait des contraintes très très dures pour les pays européens. Si on prend simplement un cas qu'on cite souvent, mais on a dû ouvrir notre marché cinématographique. On a dû obliger notre agriculture à passer sous un certain nombre de fourches codines. Je me souviens, en enquêtant un peu sur le sujet, que les jeunes ingénieurs agronomes qui arrivaient après la guerre étaient très surpris de voir que dans l'alimentation animale, toute la littérature était déjà orientée vers la consommation du soja, alors qu'il y avait d'autres moyens de le faire, et que ça passait à la trappe. Donc, en fait, le plan Marshall, oui, c'est vrai, ça a permis à l'Europe de se reconstruire, mais ça a aussi permis très largement à l'économie américaine de s'établir en Europe, à tel point que lorsque le général de Gaulle revient aux affaires en 58, rappelons-nous, parce que ça je pense qu'on l'a un peu oublié, il va imposer des quotas aux multinationales américaines. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un problème et que ce problème irrite un certain nombre de personnes qui étaient très très favorables à l'installation de l'économie américaine en Europe.
1947, le GATT. Qu'est-ce que c'est le GATT? On a oublié aussi ça, le GATT.
Alors le GATT, c'est il fallait justement un peu créer un système pour permettre cette ouverture au monde, faciliter le développement du commerce mondial. Et le GATT, c'était, de par la pression américaine, amener les pays à s'ouvrir. Comme la Grande-Bretagne l'avait fait un siècle plus tôt, au moment de la Restauration en France, où un travail très très astucieux des Britanniques avait abouti à la signature du traité de libre-échange sous Napoléon III. Et ça, c'est le beau côté de la pièce, mais le mauvais côté de la pièce, c'était la destruction totale de notre système de défense économique que les Britanniques avaient obtenu avec un certain talent. Eh bien, les Américains, je dirais, vont arriver à peu près au même résultat sous la 4e République, durant cette période où déjà notre système était très affaibli, mais ils vont très largement contribuer à nous bousculer dans nos positions. Et vous parlez du GATT, eh bien, ce GATT, on va le vivre notamment dans le domaine agricole, puisque un des actes qui va fortement nous pénaliser, c'est comment, sous pression américaine, notre agriculture va devoir s'exposer au commerce mondial avec toutes les conséquences très désagréables en termes de résultats.
Alors, quand vous étudiez le nationalisme économique américain, vous distinguez des phases, des moments. Il faudrait parler d'un retour en force de l'idée de protection à la fin des années 50, peut-être aussi dans les années 70. Mais quand même, il y a un grand mouvement d'assez longue durée qui va culminer avec la présidence républicaine de Reagan, qui dit il faut le moins de taxes possible, le moins de taxes possible à l'intérieur, le moins d'impôts possible, le moins de taxes possible face à l'extérieur, le commerce, c'est l'expression de la marée du progrès humain.
Je crois que le dicton « va vers l'ouest, jeune homme » est toujours vrai. La côte pacifique a un avenir économique important. Elle devient une force économique primordiale. Je pense que nos sommets économiques commencent à tourner le dos au protectionnisme et que nos efforts pour aller plus loin, comme le traité du GATT, nous ont permis de faire des progrès dans l'économie mondiale. Nous sommes maintenant confrontés à une situation économique mondiale où personne ne peut plus croire qu'il pourra faire cavalier seul pour atteindre une certaine prospérité.
Voilà le langage officiel de Reagan, donc au milieu des années 1980. On peut voir comment
il tolère un certain nombre d'exceptions, de brèches à ce langage évangélique qu'il tient. Vous parlez beaucoup d'agriculture depuis le début de l'émission, mais le gouvernement Reagan va défendre le mode agricole américain.
Et pour cause, parce que aux États-Unis, l'agriculture, c'est un enjeu stratégique. C'est-à-dire que on voit bien, quand on compare les politiques de différents pays, que s'il y a bien un pays qui met l'agriculture comme quelque chose d'essentiel et pas simplement comme une activité économique parmi d'autres, ce sont les États-Unis. Et ce qui est intéressant à l'époque de Reagan, c'est qu'on a un retour. Il y avait, vous savez, après l'affaire Farwell, c'est quand la France a révélé le pillage technologique que l'Union soviétique exerçait dans le monde occidental. Elle avait donné beaucoup d'éléments d'information aux États-Unis. Et pour remercier la France, Reagan avait accepté qu'un officier français participe pendant plusieurs mois à son conseil restreint qui traitait des affaires de puissance en termes économiques. Chose extraordinaire, et cet officier avait pu voir à l'intérieur du réacteur nucléaire américain ce qui se passait. Et je peux vous assurer que sous Reagan, il y avait réellement une pensée très très affûtée sur comment protéger les intérêts économiques de la puissance américaine, pas simplement de certaines multinationales.
Mais les intérêts des agriculteurs aussi.
Et aussi, bien entendu, et en déployant des forces vers l'extérieur pour affaiblir ceux qui contrariaient ces intérêts.
Non, j'insiste sur l'agriculture parce que à cet instant précis, je voulais vous faire entendre un live. Nous sommes encore au milieu des années 1980, dans l'Illinois, ce sont les débuts du festival Farm Aid. Parce que les rockers eux-mêmes se sont aperçus que les agriculteurs étaient au centre du réacteur nucléaire américain. Et régulièrement, chaque année, dans ce festival, ils viennent défendre les intérêts des familles d'agriculteurs, celles qui ont des difficultés, qui menacent d'être saisies, en particulier Neil Young en 1985.
There's a song for all you mamas out there, keeping those families together. And all you farmers' wives, doing your best.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le protectionnisme et le nationalisme économique américain, c'est le titre d'un livre de Christian Arbulot, notre invité, qui dirige Bigre, l'école de guerre économique. Alors vous en étiez à la présidence Reagan. Face à Reagan, il y a une puissance dont on oublie qu'elle était montante dans ces années 1980.
Et tous les signaux d'alerte apparaissent justement après Reagan et vont s'intensifier parce que des multinationales américaines, je pense à la filiale de Motorola au Japon par exemple...
C'est du Japon que vous parlez.
Exactement.
Ne dissimulez pas.
Tout à fait. Mettent en garde le monde économique américain, mais surtout les autorités politiques en disant attention, ce pays ne joue pas comme nous. Il est très très agressif sur le plan commercial. Il copie des technologies. Il pratique l'espionnage industriel.
Il dépose des brevets après
voilà,
des transferts.
Voilà. Il joue même au go obscur avec les brevets puisque il en dépose qu'il n'utilise pas pour nous empêcher nous-mêmes d'occuper le terrain, etc. Et donc, il y a cette montée qui est lente, parce que tant que le Japon vit dans le contexte de la guerre froide, il a une goupille de sécurité, c'est-à-dire qu'il peut exercer un chantage en disant « ne m'embêtez pas, car sinon je passe de l'autre côté ».
J'ai lu que vous étiez aussi un spécialiste d'arts martiaux.
J'ai fait un peu d'arts martiaux
japonais.
Il y a un certain nombre d'années, c'est vrai.
Alors, reportage de cette époque.
Jusqu'ici, le Japon entretenait avec les États-Unis des rapports commerciaux privilégiés, aucune industrie étrangère ne pouvant, sur place, concurrencer les industries nationales.
Il faut maintenant que les grandes nations reconnaissent notre droit à l'expansion économique pacifique, qui est une tentative historique, et ne profitent pas de notre relative faiblesse politique pour empiéter sur notre domaine économique s'ils ne veulent pas voir le Japon mettre son dynamisme au service d'autre chose.
Dans la capitale des industries automobiles, Détroit, la colère des ouvriers au chômage.
La percée japonaise aux États-Unis. L'enquête donc d'Edouard Lord.
Et il aura fallu quelques années aussi aux responsables américains pour en mesurer l'ampleur, et malheureusement parfois lorsqu'il était trop tard. Ce qui explique sans doute qu'une majorité de parlementaires ici au Congrès exige que l'on interdise purement et simplement les importations de certains produits japonais. Jusqu'ici, l'administration Reagan a fait la sourde oreille à cette forme de riposte américaine, pas vraiment conforme au principe de la libre entreprise, avec tout de même quelques entorses à ce principe. Ainsi, par exemple, la seule marque de grosse cylindrée américaine, Harley-Davidson, a obtenu que les droits de douane sur les motos japonaises, qui représentent 91% du marché américain, soient portés de 4,5% à 45%.
Alors, sous Reagan, le président disait « Oui, oui, c'est le Congrès qui est protectionniste, histoire de pouvoir continuer à tenir son langage apparemment libre-échangiste. » C'est plutôt après que l'avance japonaise est stoppée, et comment ?
Ben, en fait, elle est stoppée à partir du moment où le mur de Berlin s'écroule, que l'URSS disparaît et que le risque de voir un Japon s'éloigner du monde occidental pour aller vers le bloc de l'Est perd tout son sens.
Mais vous ne voyez pas de facteur endogène au Japon ?
Je pense que le problème, c'est le Japon, c'est effectivement une économie qui est déjà un modèle économique différent de celle qu'on connaît et que maîtrisaient les États-Unis dans le monde occidental. Et on verra par la suite deux autres pays suivre l'exemple du Japon, la Corée du Sud et la Chine. Et en fait, ces modèles particuliers qu'on continue à qualifier d'économie de marché ne le sont pas réellement. C'est-à-dire que chacun de ces pays a un point commun qui est une politique d'accroissement de puissance en utilisant l'économie. Le Japon, c'était pour éviter de se faire coloniser à la fin du 19e siècle. La Corée du Sud, c'était pour éviter de se faire laminer par la Corée du Nord après la guerre de Corée. Et la Chine, c'était pour éviter de subir le même sort que l'Union soviétique.
On parlera de la Chine dans un instant, Christian Arbulot, mais vous voulez dire qu'avec ce cas japonais apparaissait un certain type de nationalisme économique asiatique.
Et que le monde occidental avait le plus grand mal à contrer. Et moi, je me souviens, au début des années 90, en discutant avec Edith Cresson, Premier ministre, on voyait qu'il y avait dans les coulisses un dialogue assez précis venant des États-Unis vers l'Europe pour dire il faut stopper le Japon dans un certain nombre de démarches, et notamment une qui a inquiété énormément les États-Unis, c'est que le Japon avait compris qu'il pouvait rentrer dans la faille des pays dans le débat Nord-Sud, comment aider les pays du Sud par rapport aux pays du Nord, eh bien nous allons leur construire un super système technologique, ils appelaient ça le technoglobalisme, et ils apparaissaient comme les gentils. Et les Américains ne pouvaient en aucun cas accepter que le Japon devienne le pays qui allait aider le Sud, les pays sous-développés, à sortir de leur état, notamment par la technologie.
C'est vous qui inspiriez les propos agressifs d'Edith Cresson sur le Japon.
Oui, elle a sûrement été un peu maladroite à travers ses propos, parce qu'elle aurait dit l'essentiel, c'est-à-dire que il y a un problème et il y a vraiment une rivalité géoéconomique, mais ça ne se fait pas dans la politique classique. Mais en fait, c'était ça le problème. Il y a eu une entente entre les États-Unis et l'Europe pour stopper le Japon, et ils ont réussi à le stopper.
Alors, la chute du communisme joue un rôle, puisque le Japon ne peut plus expliquer qu'il peut changer d'alliance. Pendant la période qui suit la chute du communisme, le libre-échangisme semble avoir des ailes. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est créée en 1995. Et au tout début de notre millénaire, la Chine, 2001, date importante, rejoint l'OMC et c'est un très bon élève.
Oui, mais attention, il
faut regarder le dessous des cartes.
Il se passe quand même un événement dans les années 90, c'est les deux mandats Clinton. Et Clinton fait quelque chose qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Il annonce qu'il veut créer une politique de sécurité économique. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on crée une politique de sécurité économique, c'est pas pour aider les gens à traverser la rue. C'est tout simplement parce que les États-Unis sont de plus en plus enfermés dans le coin du ring. C'est-à-dire qu'ils ont contré le Japon, mais derrière, c'est l'Asie. Ils ont du mal à contrer l'Europe. Et l'argument qu'ils prennent, parce qu'ils savent toujours habiller très habilement leur discours, c'est de dire nos entreprises sont dans des situations de concurrence déloyale dans les économies émergentes. Donc, pour aider nos entreprises, nous allons créer cette politique de sécurité économique. Avant que la Chine n'arrive, et la doctrine Clinton ne va pas suffire à contenir la Chine.
C'est drôle, chacun cite Clinton comme il veut, alors vous insistez sur sa politique de sécurité économique. Voici un documentaire qui a été produit au début des années 2000 par Peter Navarro, qui est devenu maintenant Monsieur Protectionnisme à la Maison Blanche depuis quelques jours. Et ce documentaire, dit par Martin Sheen en personne, commence par une évocation des faiblesses et des facilités de Clinton, parce que et citer son discours sur l'entrée de la Chine dans l'OMC, ben, ça s'est pas passé du tout comme le prévoyait Clinton, dit Peter Navarro.
En 2001, la Chine a rejoint l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec le soutien appuyé du président démocrate et un congrès contrôlé par les républicains. Avant que l'encre ne soit sèche sur l'accord de libre-échange, la Chine commençait à inonder le marché américain avec ses exportations subventionnées illégalement et très dangereuses, pendant que les grandes entreprises multinationales qui avaient lourdement fait du lobby en faveur de l'accord accéléraient rapidement la délocalisation des entreprises américaines et des emplois américains vers la Chine. Aujourd'hui, la Chine a volé des milliers de nos entreprises et des millions de nos emplois. Les profits de la coopération multinationale sont en forte progression et nous devons maintenant plus de 3 milliards de dollars aux plus grands pays communistes du monde. Et ce n'était pas censé se dérouler ainsi.
Pays communiste, la guerre économique, c'est toujours une guerre politique. Et la Chine, nouvelle figure du nationalisme économique asiatique que vous décriviez tout à l'heure. Mais le président Obama, citons un peu les présidents démocrates, il avait lui aussi une stratégie de sécurité au sens où il déplaçait la politique américaine vers le pivot du Pacifique. Il disait des deux côtés du Pacifique, nous sommes liés par une même histoire. Et en fait, son partenariat transpacifique, c'était une manière d'encercler la Chine. Pourquoi Trump l'abandonne-t-il ?
Les Américains avaient compris, comme le dit la bande-son, un peu tard que la Chine n'était pas qu'un Eldorado. C'était une puissance qui était en train de progresser beaucoup plus vite qu'ils ne le croyaient, et en particulier par l'économie. Et c'est vrai qu'une des premières tentatives pour limiter son extension, c'est les fameux traités transpacifiques et transatlantiques. Mais je n'ai pas le sentiment que la stratégie de Mama ait été validée par l'ensemble des forces aux États-Unis. Et aujourd'hui, on assiste en fait à un durcissement après Obama, qui est une politique à la fois de gesticulation verbale, mais aussi la manière d'obliger la Chine à faire des concessions. Et on est en plein dedans, c'est-à-dire que la politique Trump, et on va voir si elle va réussir ou non, d'ailleurs, c'est un point d'interrogation, c'est d'essayer à tout prix de bloquer la Chine sur ses capacités offensives dans tous les domaines, et notamment dans ce qui fait le plus peur aux États-Unis, c'est par rapport au monde immatériel, à l'économie numérique, c'est-à-dire à ce nouveau monde à conquérir.
On a pris garde à l'annonce sur la tarification de l'acier et de l'aluminium le 8, mais le 12, Donald Trump a bloqué l'OPA d'un groupe singapourien sur un fabricant de microprocesseurs cher à Silicon Valley, et ça c'est très important aussi. Merci à vous Christian Arbulot, le nationalisme économique américain, VA Édition. L'émission était préparée par Frédéric Martin, avec à la réalisation Audrey Ripouille et à la technique Rémi Sistiaga. Alors, pas trop d'empathie, de bienveillance, nous a expliqué Christian Arbulot. Et chez vous, Mathieu Bidard?
Ben justement, lorsque les bons sentiments nous aveuglent, Jean, les pièges de l'empathie, voilà, une façon de les voir autrement.